Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Et j'aimerais que nous nous entretenions sur un passage de l'Ancien Testament dans le livre des Psaumes. Et je vous invite à ouvrir le psaume 34 et nous allons faire une courte lecture, simplement le verset 8. Alors voilà donc ce que nous lisons et ce que j'aimerais commenter et certainement enrichir avec d'autres pensées. Le verset 8 nous dit ceci: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Voilà notre sujet de notre partage, notre réflexion ce matin. Si nous devions titrer eh bien, cette pensée, je parlerai de l'invisible au visible, tout simplement. Alors, Jésus nous dit ceci à un moment donné dans l'évangile de Marc, si ma mémoire est fidèle. Il nous dit tout simplement que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il est bien évident que lorsque nous prenons cette parole de Jésus, eh bien, lorsque nous demandons, nous ne voyons pas. C'est parce que justement nous persévérons, nous manifestons notre confiance sur une parole. C'est-à-dire qu'il nous dit, bien, tout ce que vous demanderez en priant, prier, c'est parler. Et dans cette parole que nous adressons à Dieu, nous manifestons notre confiance, mais au moment où nous demandons, nous ne voyons pas encore les choses. Elles vont se réaliser puisque Jésus nous l'affirme avec une grande certitude. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez-le. Faites confiance. Et il nous est bien donné ensuite le résultat de cette démarche. Vous le verrez s'accomplir. Alors, si je peux résumer un petit peu ce que nous venons d'introduire, je dirais que la foi, c'est reconnaître qu'un être, peut-être aussi une chose, mais j'appuierai particulièrement dans le sujet qui nous interpelle ce matin, qu'un être, une chose, un exaucement, un accomplissement, est déjà une réalité concrète devant Dieu. C'est-à-dire que eh bien, les choses ne sont pas à faire, elles sont déjà faites dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire en haut. C'est pourquoi Jésus nous dira à un moment donné, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et j'affirme qu'il y a probablement dans le ciel des trésors, des possibilités inimaginables de choses qui sont déjà réalisées, qui sont en attente de notre foi, de notre confiance pour que nous puissions les recevoir. Alors, j'ajoute ceci que c'est une réalité concrète. Hein. C'est-à-dire que les choses sont réelles, elles sont existantes, alors qu'elles ne sont pas encore visibles. C'est ça justement, ce que j'ai appelé de l'invisible au visible. Rendre l'invisible visible en finalement touchant ces choses avec la main de la foi. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et je relis ce beau texte que nous avons souligné tout à l'heure, il nous est dit, mais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors il s'agit d'une circonstance particulière, il est question de danger, il est question finalement d'urgence en quelque sorte, même dans les cas extrêmes de notre vie où nous crions à Dieu, mais le secours est déjà prêt. Dieu ne va pas le fabriquer au dernier moment, Dieu ne va pas mettre en place un plan B ou un plan de secours, non, les choses sont déjà là. Et c'est important de souligner qu'en effet, Dieu a déjà tout préparé. C'est à nous de le croire, c'est à nous d'engager notre foi. Il y a aussi cette parole merveilleuse que nous avons dans le livre des Psaumes, me semble-t-il, où il est dit, il envoya sa parole et il les guérit, ou il les sauva, ou il leur a donné, ou il leur donne, l'exaucement, qu'ils attendent. Alors, j'ai bien précisé tout à l'heure, c'est savoir reconnaître un être ou une chose. Nous ne allons pas parler tant des choses, mais nous allons parler d'un être. Nous allons parler d'un personnage assez particulier qui apparaît dans l'Ancien Testament, nous y reviendrons par le détail, et nous voyons qu'il est question de l'ange de l'Éternel. Il y a des centaines et des centaines de références autour des anges, autour de ces créatures angéliques qui peuplent le ciel dans la présence de Dieu, des anges qui sont saints, parce qu'on les appelle les saints anges, mais il en est un qui se distingue entre tous et qui n'est pas tout à fait un ange. Alors c'est vrai que, il est vrai que ça pose des questions au lecteur de la Bible en disant, mais voilà, il y a là des forces spirituelles, il y a un monde spirituel qui est fait, bien sûr, un monde divin et un monde, on pourrait dire, malin. Et dans ce monde divin, il y a aussi ces créatures qui sont créatures, hein, c'est-à-dire que Dieu les a créées comme les hommes, mais à une dimension, à la dimension de l'invisible et à la dimension de l'éternité. Ils n'ont pas de corps, ou quelquefois ils peuvent apparaître naturellement avec une ressemblance humaine, mais je reviens et je voudrais marquer particulièrement en ce qui concerne l'ange de l'Éternel, c'est une question, parce qu'on lit ça, on se dit, bah oui, c'est un ange parmi les autres. Et nous allons voir que notre réflexion va nous amener, finalement, au cœur même de la révélation biblique, et je dirais plus que biblique, la révélation évangélique. Vous allez comprendre. L'ange de l'Éternel est un être mystérieux, mais dont le voile est bien élevé par justement ces textes. Parce que je crois que plus de 19 fois dans l'Ancien Testament, la mention de l'ange de l'Éternel apparaît. Un être mystérieux, ça c'est, nous pourrions dire, la particularité de l'Ancien Testament. Il y a Dieu dans l'Ancien Testament, il y a la révélation de Dieu, son nom, ses noms, sa puissance, ce qu'il est, sa personnalité, sa souveraineté, ça c'est un fait. C'est Dieu qui se fait connaître à travers l'Ancien Testament à un peuple privilégié que l'on appelle tout simplement le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Mais il y a ce personnage qui apparaît, et qui apparaît que dans l'Ancien Testament, mais qui va revêtir un autre caractère dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est quelque chose de formidable, et ce qui montre bien toute l'intelligence, la cohésion, la cohérence, finalement, de toute la Bible. Cet ange est d'un ordre différent des autres anges. C'est vrai. Il est distinct de Dieu, parce que, il est bien question de l'ange de l'Éternel. Il y a Dieu, l'Éternel, et il y a donc cette distinction qui est faite. Étant semblable, nous dit la Bible, étant semblable comme Dieu. Alors ça, c'est troublant, parce que, Dieu est créateur, et là, il y a un être qui, lui, n'est pas créé comme les anges. Et, je rappelle, il est étant semblable comme Dieu, et chose extraordinaire et étonnante, il porte les qualificatifs, il porte le nom de Dieu. Et nous avons là dans un texte formidable, c'est dans Juges, au chapitre 13 et au verset 18. J'aimerais justement restituer ce texte, parce que bon, si nous voulons expliquer, nous avons besoin quelque part de pouvoir étayer ce que nous disons à travers l'Écriture sainte. Alors, nous avons par exemple au verset 18, il nous est dit que l'ange de l'Éternel, on lui pose « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et l'ange répondra, l'ange de l'Éternel répondra « Il est merveilleux. » Le terme de merveilleux, véritablement, c'est la caractéristique parfaite et totale de ce qu'est Dieu. Et nous voyons que cet ange de l'Éternel se confond avec le Messie sauveur. Je dis bien Messie pour les Juifs et sauveur pour les hommes du monde entier. Et nous avons cette passerelle à travers l'ange de l'Éternel, cette passerelle, ce pont entre l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, et le Nouveau Testament, l'Évangile, avec la personne de Jésus-Christ. Et c'est unique. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, nous avons là, eh bien, en quelque sorte, les prémices de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est-à-dire la venue de Jésus, qui se fait, ou Dieu se fait homme, à travers, eh bien, un enfant. Et il est dit ceci, « Car un enfant nous est donné, on reconnaît tout à fait, eh bien là, la nativité, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. » Et quand nous parlions de nom de Dieu, et voilà comment on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son nom est merveilleux. Je suis en train d'introduire finalement ce verset, en quelque sorte, pour que nous puissions vraiment prendre pied, prendre racine en quelque sorte, de cette cohérence que toute l'Écriture nous livre, entre, en effet, eh bien, ce qui est Dieu créateur, et celui qui viendra incarner, ou disons plutôt représenter, incarner dans la personne de Jésus naturellement, mais représenter dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la révélation complète et totale, dans la personne finalement de l'ange de l'Éternel. Qui est-il ? Alors qui est-il ? Eh bien c'est en quelque sorte ce que Jésus avait posé à ses disciples dans les évangiles, quand il dira « Qui dit-on que je suis ?» Qu'est-ce que vous, mes disciples, qu'est-ce que nos contemporains de mon temps disent que je suis ? Les uns disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète, disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, enfin toutes sortes de choses. Et c'est important justement d'avoir, non pas des opinions, mais d'avoir des convictions. Et c'est ce que j'entends bien faire lorsque je prêche l'Évangile, d'amener des hommes et des femmes en recherche qui ont faim, qui ont besoin de ce pain de spirituel que nous donne la parole de Dieu pour fortifier notre foi et développer notre vie spirituelle, de savoir quelle est votre pensée profonde sur la personne de Jésus. Dieu, l'ange de l'Éternel pour l'Ancien Testament, Jésus-Christ pour le Nouveau Testament. N'est-ce pas Jésus qui dira, lui, à un moment donné, à la question de ses détracteurs dans l'évangile de Jean, il dira cette parole étonnante. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il n'y a aucun homme qui puisse dire une chose pareille. C'est comme si finalement un homme pouvait dire, eh bien, moi je vivais avant Moïse, hein, ou avant Adam par exemple, ou avant les uns et les autres. Jésus a eu l'audace de dire ça pour bien développer un fil conducteur, un cordon rouge, pour montrer que Jésus est Dieu, que Jésus est créateur, que Jésus est sauveur, que Jésus est tout. Mais dans l'Ancien Testament, pour les Juifs qui attendaient leur Messie, c'était déjà en quelque sorte des prémices, des éléments, des jalons qui n'étaient pas forcément très, très lisibles, très visibles, mais néanmoins, au fond des cœurs, quand il y avait la foi, les gens pouvaient finalement suivre ce jalon et arriver à des convictions. Et aujourd'hui, si l'Évangile est prêché comme il est prêché, par tout le monde, c'est vrai, dans tout le monde, eh bien, c'est que la première chose que nous ayons à faire, c'est que nous ayons à prêcher l'Évangile, que nous ayons à parler de l'Évangile, parce que c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que l'Évangile nous dit ? Il nous parle de Jésus. Or, en sachant que l'apôtre Paul va surenchérir, si nous avons besoin peut-être d'être guidés, d'avoir peut-être une petite lumignon, une petite lumière qui nous éclaire vers celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », c'est que celui, il nous est dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, et c'est pour ça que je m'applique à, eh bien, peut-être prendre le temps de bien vouloir marquer, non pas le Christ de l'histoire des évangiles du Nouveau Testament, mais d'aller au-delà de tout cela pour que vous sachiez que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur. Il est le Messie pour les Juifs, il est le Sauveur pour tous les hommes. Avant qu'Abraham fût, je suis l'ange de l'Éternel. Donc il y a là une préexistence. Il y a là encore, eh bien, qui annonce une incarnation, un Dieu visible, un Dieu invisible qui devient visible à travers un corps d'homme. Dieu fait homme par Jésus-Christ et comme tous les hommes. C'est ce que la Bible nous affirme. Alors, brièvement, j'aimerais justement, eh bien, parler de cette préfiguration de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, eh bien dans les Actes. Lorsque nous étudions les textes qui nous parlent de l'ange de l'Éternel, c'est toujours des actes pour démontrer l'existence de Dieu, ou la volonté de Dieu, ou le secours de Dieu, le salut de Dieu, voire même le pardon de Dieu, à travers des actes. Et ça, c'est sa mission à l'ange de l'Éternel. Et éveiller, finalement, eh bien, le peuple juif, eh bien, de ce que serait, de ce que sera dans les siècles à venir, nous pour nous, maintenant c'est fait, eh bien, ce que serait finalement, eh bien, le Christ, celui qu'ils attendaient. Il y a dans l'ange de l'Éternel une manifestation de puissance et de pouvoir. Et nous le voyons parce que dans tous les textes que nous voyons, quand il parle à Gédéon, quand il parle dans le livre de la Genèse, l'ange de l'Éternel, quand il parle dans, naturellement, eh bien, d'autres situations, eh bien, nous voyons qu'il va se manifester finalement pour apporter l'essence, le cœur même du message de Jésus, parce que Jésus n'est pas venu apporter un jugement, il n'est pas venu apporter la condamnation sur la terre, il est venu apporter la grâce. C'est ça. Et déjà était présent dans le régime de la loi de l'Ancien Testament, la grâce à l'état de bourgeon en quelque sorte. Et nous pouvons dire que ce bourgeon a éclos à travers la personne de Jésus, et bien est devenu véritablement une fleur épanouie dans le Nouveau Testament. C'est ça ce qui est extraordinaire. De ce qu'il y avait d'embryonnaire dans l'Ancien Testament, en quelque sorte, le vermisseau est devenu papillon. Dans la réalisation des temps, des siècles, et tout cela dans un fil conducteur qui nous amène du plan de Dieu, de ce qu'est Dieu, à travers cette voie de l'ange de l'Éternel, des actions de l'Éternel, de sa mission, pour nous amener bien à ce que Jésus a réalisé, a accompli, et entre autres, le grand message de Jésus, il dira, eh bien tout simplement, que la loi est venue par Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été véritablement l'homme de la grâce, et il s'est fait avocat, et il s'est fait défenseur. Nous avons une très belle finalement, confession et un témoignage extraordinaire. Si nous voulons avoir une idée précise, c'est que dans le livre des Hébreux, par exemple, il nous est donné ce passage qui est intéressant, parce que nous le connaissons, nous l'avons lu. Il nous est dit, pour relier les choses, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, moi j'y ajouterai, parlé parfois par les anges, mais aussi principalement par l'ange de l'Éternel, Dieu dans les derniers temps, les nôtres en quelque sorte, eh bien il nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus. Et il nous a bien précisé la personnalité, la souveraineté, les caractéristiques spécifiques du Fils de Dieu, qui est à la fois homme et Dieu, Dieu et homme, il nous a dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il est, et vous avez remarqué, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qui ne peut pas être convaincu que Jésus est Dieu ? Dieu incarné, Dieu venu parmi les hommes pour les sauver, naturellement. Alors je voudrais revenir, et je ne vais pas être très, très long, mais je voudrais revenir tout simplement dans le psaume 34, et j'aimerais lire quelques versets. Alors, je reprends le verset que nous avons lu. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Et je reprends un peu plus haut. Un homme, le psalmiste, c'est David, dit ceci, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. » J'ai cherché, et il m'a répondu. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et résultat naturellement pour l'homme qui découvre, dont le mystère se dévoile, il dit, « Mais quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » C'est pas la confusion. Ce n'est pas la consternation, ce n'est pas la culpabilité, mais on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la démarche qui nous fait reconnaître eh bien, que les choses sont déjà prêtes, en quelque sorte. Et en ce qui concerne l'ange de l'Éternel dont nous avons parlé suffisamment maintenant, Il nous a dit qu'il campe. Qu'est-ce que c'est? C'est du camping? C'est les vacances? Non. On pourrait peut-être l'assimiler plutôt à un camp militaire, hein, ou dans une bataille, ou la préparation d'une bataille, ou dans ce qui va être finalement eh bien, une guerre qui va s'engager. On est là, on campe. Ça veut dire qu'on a déposé peut-être toutes les choses utiles et inutiles, hein, et on est là, on ne bougera pas. On n'ira pas en arrière. On campe, tout simplement. Il est campé là. L'ange de l'Éternel, il est campé pas auprès de n'importe qui. Et dans des circonstances particulières, pour justement eh bien, confirmer sa puissance et ses pouvoirs, il campe autour de ceux qui le craignent. Et là, ça mérite peut-être une explication. Faut-il qu'il y ait des épreuves dans la vie des hommes pour qu'ils se mettent à penser à Dieu? Et que peut-être, avec une réminiscence de leur éducation soi-disant prétendue religieuse, eh bien là, alors qu'ils sont en train de tourner les regards de tous les côtés, de regarder à l'horizontale et ne trouvant pas de secours, se mettent à tourner les yeux vers le ciel. Et c'est déjà une forme de crainte, de dire Dieu existe. Dieu peut me délivrer. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors que David dira, mais en effet, hein, il le précisera, j'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré. Ça, c'est le croyant qui parle. Mais beaucoup de gens, peut-être, font l'expérience d'une rencontre avec Dieu parce que, eh bien, sans voir la réalité, sans avoir finalement ce que nous avons dit tout à l'heure, eh bien là, quelque chose qui peut nous réconforter humainement parlant, nous ne voyons pas, mais il campe autour de ceux qui le craignent. Combien de fois nous avons fait cette expérience de la présence de Dieu alors que nous n'étions pas conscients qu'il était présent? Combien de fois nous a-t-il arraché à des accidents, à des dangers, à la maladie, à la mort, à toutes sortes de choses, et nous l'avons reconnu sans que nous pensions que ce soit à ce moment-là des coïncidences? Mais peut-être, peut-être plus que la coïncidence, le hasard n'existe pas pour les chrétiens, mais plutôt, finalement, la providence de Dieu. Et ça, c'est aussi une forme de conscience de la présence de Dieu, de ce qu'il est, même sans le voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il les arrache au danger. Ouais, c'est ce que je viens de souligner il y a un instant, dans les périls, dans les naufrages, dans les menaces, dans tout ce qui peut attenter à notre vie, à nos jours, eh bien, nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, réalisé dans le Nouveau Testament pleinement, alors est là auprès de nous pour nous délivrer. Je terminerai tout simplement par une simple conclusion, et elle est belle. Enfin, pour moi, elle me parle. Pour moi, elle est la révélation, elle est la conclusion de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. C'est vrai que nous avons été fouillés un petit peu dans ces théologies, hein, du monde surnaturel, hein, les anges, hein, ce que l'on appelle en théologie l'angélologie. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, ça ne concerne pas tout le monde, je le sais, mais c'est une réalité du monde spirituel et invisible. Mais moi, je ne veux pas me fixer sur les anges parce que ce sont des créatures comme les autres. Mais Jésus-Christ n'est pas une créature. Et si nous voulons avoir une conviction forte, ferme et établie, écoutez, 1 Jean chapitre 4, hein, où il nous est simplement rappelé dans ce simple verset, et ça c'est une affirmation de l'apôtre Jean dans son épître, il dira « Nous savons aussi ». Nous savons, ça veut dire que nous le savons, que nous le connaissons, que nous avons une conviction, que nous n'avons pas seulement, eh bien là, une opinion, mais nous pouvons affirmer, nous savons aussi que le Fils de Dieu, anciennement invisible, ou manifesté d'une manière voilée dans l'ange de l'Éternel, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ne cherchons pas le Messie, il est déjà là. Ne cherchons pas le Sauveur du monde, il est déjà là depuis, parmi les hommes, sur notre terre, depuis 2000 ans. Il est venu. Jésus-Christ n'est pas à faire, il n'est pas tout simplement eh bien, imaginé, il est là, tout simplement. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Ce que nous avons exercé ce matin, c'est une réflexion. Qui dit réflexion dit intelligence, dit pensée, dit cogitation, si l'on veut, avec un mot un petit peu plus vulgaire, hein, mais ça nous amène à réfléchir. Alors, il nous a donné l'intelligence pour connaître. L'enseignement est important. Je l'ai dit et je le répète à dessein. C'est Paul qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, non pas ce que l'on voit, non pas ce que l'on touche, non pas ce que l'on goûte, non pas à travers des sensations, des frémissements ou une sensibilité de l'âme. Non, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Entendez par là de la parole de Christ. C'est pour cela que nous voulons nous attacher à enseigner le message biblique, le message évangélique, pour que les gens qui l'entendent puissent avoir la foi, puissent découvrir ce qu'est la confiance dans un Dieu qu'ils ne voient pas, un Dieu invisible, mais un Dieu bien réel, comme nous l'avons dit dans notre introduction. Qu'il nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et le véritable, avec un V majuscule, pour nous chrétiens, c'est Dieu. Dieu créateur, il est le véritable. Dieu véritable, c'est Jésus-Christ, qui a été présenté à travers les écrits des évangiles, à travers et enseigné à travers les épîtres du Nouveau Testament, que nous connaissions le véritable. Et nous allons aller encore un peu plus loin, et nous sommes dans le véritable. C'est pas que nous serons, c'est pas qu'il y en a plusieurs, c'est pas qu'il y a là, eh bien, un prophète, ou qu'il y aurait des vrais prophètes, ou qu'il y aurait des faux prophètes, qu'il y a un sauveur. Je mets cela au-dessus de toutes les appellations qui puissent exister, de tout ce que l'on peut nommer sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, que nous sommes dans le véritable, et que nous sommes dans ce véritable, comment ? Dans son Fils, Jésus-Christ. C'est clair. C'est simple. Il n'y a pas à porter d'autre chose. Il n'y a pas à ajouter une philosophie religieuse derrière. Il n'y a pas à chercher des complications. Il n'y a pas à chercher des aménagements pour retrancher ou ajouter à ce qui est dit. Nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. De l'invisible à la révélation. C'est quelque chose d'important. Je tiens à ce message parce qu'il est authentiquement évangélique. Peut-être compliqué pour certains. Et il est peut-être beaucoup plus compliqué pour ceux qui ont une démarche intellectuelle et cérébrale que peut-être pour des gens simples, dont le Saint-Esprit va éclairer le cœur. Ils ne savent peut-être pas grand-chose, ces gens simples. On les appellera des ignorants. Mais leur cœur est éclairé, leur cœur est allumé. D'ailleurs, vous remarquerez que parmi, finalement, eh bien, les disciples de Jésus, qui sont devenus des apôtres, hein, il nous est dit qu'il n'a pas choisi les choses sages et intelligentes du monde. Ce n'est pas péjoratif, hein, mais il a choisi les choses simples, les humbles, parce que dans le cœur des hommes, eh bien, le Saint-Esprit peut pénétrer et peut enseigner de l'invisible à la révélation. Et je finis. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Ça, c'est Jean qui nous le dit dans son évangile. Il dit ceci, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Si vous aspirez au salut, si vous aspirez à la grâce, au pardon, si vous aspirez au royaume de Dieu, si vous aspirez à être délivré de vos craintes et de vos peurs, et particulièrement la peur de la mort, la peur de vivre, toutes ces choses qui appartiennent à notre monde depuis les temps immémoriaux et qui font que les hommes, eh bien, sont perdus et pécheurs, alors à ce moment-là, moi je vous invite tout simplement, eh bien, à croire en Jésus-Christ, et là, vous avez l'assurance, vous avez la certitude, vous avez la promesse qui est déjà réalisée dans le ciel, il ne manque plus que de la réaliser dans votre vie sur la terre, que vous ayez la vie, car en lui, vous avez la vie, en son nom. Il n'y a un seul chemin, une seule vérité, il n'y a qu'une vie, c'est le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne sa grâce. Que Dieu vous bénisse les uns et les autres. Merci de votre attention.